à fond, pardonnez-moi. Je disais au revoir à Sarah Salman et Charlotte Dornelas. Et juste avant de se quitter, laissez-moi vous rappeler que Frédéric Taddeï vous donne rendez-vous tous les week-ends de 9h à 10h. C'est arrivé cette semaine et c'est arrivé demain. Deux invités, demain, trois même. Benjamin Morel, constitutionnaliste. Pascal Boyer, anthropologue pour le livre L'impossible démocratie, comment nos instincts façonnent et déforment l'idéal politique. Et puis Chantal Delson, philosophe pour le livre La tragédie migratoire et la chute des empires aux éditions Jacob. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dès demain à 19h. En attendant, Maëlle Laurent vous accompagne pour l'information toute la soirée. Dans un instant, c'est aussi la semaine politique présentée par Alexis Delafontaine. Excellente soirée à tous sur Europe 1. Europe 1, il est 21h pile. Toute l'actualité avec vous, mon cher Maëlle Laurent.
Les menaces de Donald Trump d'imposer de nouveaux droits de douane aux pays qui s'opposent à l'annexion du Groenland sont inacceptables. Les propos ce soir d'Emmanuel Macron qui promet de faire respecter la souveraineté européenne. L'Union européenne, justement, met de son côté en garde contre une spirale dangereuse. Il faut dire qu'un peu plus tôt, le président américain avait menacé plusieurs pays européens, dont la France, notamment d'une surtaxe de 10% applicable dès le 1er février, et ce, tant que le Groenland ne sera pas intégralement vendu aux États-Unis. La présidente de la Commission européenne se félicite par ailleurs de voir le commerce juste triompher de ses droits de douane. Réaction cette fois à l'accord de libre-échange, officiellement signé aujourd'hui entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. C'était un peu avant 18h, heure française. Ursula von der Leyen qui avait fait le déplacement jusqu'au Paraguay. Des propositions qui vont encore aggraver le déficit. Réaction de Marine Le Pen aujourd'hui au compromis proposé par Sébastien Lecornu sur le budget. La chef de file des députés RN à l'Assemblée accuse aussi le PS, avec qui l'exécutif négocie, de n'être plus que la béquille rouillée et tordue de ce qu'il reste de la Macronie. De son côté, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, indique que son parti ne censurera pas le gouvernement si le financement de ces nouvelles mesures ne se fait pas sur le dos des Français. Fin de citation. Les rassemblements ce samedi dans plusieurs villes de France, Paris, Lyon et Marseille notamment, en soutien au peuple iranien. Sur place, les manifestants ont été formellement menacés par le guide suprême iranien. Il indique vouloir briser le dos de ceux qu'il appelle des séditieux, tout en imputant les victimes du mouvement de contestation à Donald Trump. On en sait également un peu plus sur le Conseil de la paix pour Gaza, voulu par Donald Trump. Y siégeront son chef de la diplomatie, Marco Rubio, ou encore Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique. Proposition faite également par le président américain à ses homologues turcs et égyptiens. Un comité dont les membres ne satisfont ni Israël, ni le djihad islamique à ce stade. 5 morts dans des avalanches en Autriche. 4 skieurs hors piste ont perdu la vie après avoir été emportés par une coulée de neige près de Salzbourg. La 5e victime est une randonneuse à ski qui faisait elle aussi du hors piste dans la même zone. Bilan terrible de ces avalanches qui s'ajoutent à cet Allemand qui a perdu la vie hier dans les Alpes suisses et à ces 6 personnes qui ont péri dans des circonstances similaires, cette fois côté français. Enfin, un mot de météo en France. Le département de l'Hérault, placé en vigilance orange, pluie et inondation depuis la fin d'après-midi et ce jusqu'à demain soir. Vigilance étendue à la Corse pour la journée de dimanche. Des risques de crues également pour l'Hérault et pour l'Aude pour tout le reste du week-end.
Europe 1,
il est 21h03 pile. Place à la semaine politique d'Alexis Delafontaine.
Europe 1,
21h, 22h,
la semaine politique.
Alexis Delafontaine.
Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine politique sur Europe 1. Et tout de suite, écoutons le député, les écologistes Benoît Biteau sur son opposition au Mercosur.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues. J'aimerais baser mon propos sur des fondamentaux. D'abord préciser que des échanges planétaires ne passent pas forcément par des accords de libre-échange. Je viens d'une belle région où on produit un produit merveilleux avec lequel je suis absolument pas fâché, qui s'appelle le cognac. 98% de la production de cognac est exportée et nous n'avons pas besoin d'accords de libre-échange pour exporter 98% des volumes de cognac. Donc il faut cesser avec ce mythe qui consiste à penser que pour faire de l'économie, des échanges planétaires, nous avons absolument besoin des accords de libre-échange. Sauf que quand on conclut des accords de libre-échange, on s'impose des contingences de volume. Or, c'est précisément ces contingences de volume qui nous pose un problème. Non pas que la viande bovine venue du Mercosur va venir inonder le marché européen de la viande. On a calculé, c'est à peu près un steak par an par citoyen européen. Mais l'entrée de ces volumes contingentés fait qu'on va tirer vers le bas les produits carnés, les produits de viande bovine, et que ces produits qui tirent le prix vers le bas ne permettront plus aux producteurs européens de vendre au juste prix la viande qu'ils produisent sur nos territoires avec des standards de production nettement supérieurs à ceux qui sont obtenus sur le continent européen. Et donc, cet accord de libre-échange avec ses contingences de volume font que l'agriculture devient la variable d'ajustement, que l'agriculture devient la monnaie d'échange pour pouvoir commercialiser des grosses berlines allemandes, pour pouvoir commercialiser des avions, pour commercialiser des services. Or, ce que ça veut dire, très concrètement, ça veut dire que nous sacrifions un secteur économique majeur qu'est l'agriculture européenne pour pouvoir exporter ses productions. Alors qu'il nous faudrait précisément réclamer l'exception agricole. Il n'est pas question de dire on ne veut plus d'accord de libre-échange, il est question de dire qu'on parle d'un besoin primaire, celui de se nourrir, et que les productions agricoles devraient être systématiquement écartées de ces accords de libre-échange, précisément pour que l'agriculture ne soit pas la monnaie d'échange, ne soit pas la variable d'ajustement de ces accords de libre-échange. Ensuite, on convoquerait la souveraineté alimentaire pour justifier ces accords de libre-échange. Je vais rappeler, et je le répète à l'envi, que ce qui menace la souveraineté alimentaire aujourd'hui, c'est le dérèglement climatique, c'est l'effondrement de la biodiversité. Or, cet accord de libre-échange accélère précisément ces deux périmètres, effectivement. L'accord de libre-échange, c'est de la déforestation de la forêt amazonienne qui est le poumon de notre planète. L'accord de libre-échange avec le Mercosur, c'est une déforestation additionnelle de 700 000 hectares pour amplifier la production de viande bovine qu'ils veulent nous envoyer sur le continent européen. C'est deux fois la surface de production de betteraves en France. C'est précisément la surface du département d'où je viens, la Charente-Maritime, qui va être déforestée pour produire plus de viande bovine. Donc nous, avec cet accord de libre-échange, accélérons la déforestation de la forêt amazonienne et donc du poumon de la planète et donc le dérèglement climatique. Ensuite, la biodiversité. On a besoin de cette biodiversité, notamment pour les pollinisateurs qui vont visiter les fleurs des plantes, qui vont produire des grains, qui vont produire des fruits, qui vont produire des légumes. Et donc cette biodiversité, parce que on va utiliser des pesticides, parce qu'on va dévaster des espaces remarquables, sera également menacée. Et donc on menace la souveraineté alimentaire avec cet accord de libre-échange. Et puis enfin, parlons de la souveraineté alimentaire dans sa définition intrinsèque. La définition de la souveraineté alimentaire, elle a été posée par le plus grand syndicat paysan du monde, qui est la Via Campesina. Et cette définition a été reprise par l'ONU, par la FAO. Elle n'a rien à voir avec la volonté d'équilibrer une balance commerciale. Elle n'a rien à voir avec la volonté exportatrice des politiques publiques qu'on conduit en France. C'est un détournement majeur du concept de la souveraineté alimentaire. Parce qu'à chaque fois qu'on veut exporter, on se rend vulnérable à des importations. C'est précisément le principe des vases communicants. Toutes les surfaces qu'on va mobiliser pour produire du blé, du tournesol, du maïs qui va être exporté sont autant de surfaces qu'on ne mobilise pas pour produire des denrées qu'on pourrait consommer localement, comme notamment des fruits et légumes. Et c'est le cas là-bas, du côté du Mercosur, où précisément pour exporter du soja ou de la viande bovine, on va s'éloigner des productions vivrières dont ont besoin les résidents de la zone Mercosur. Et donc, avec ces accords de libre-échange, on spécialise des zones de la planète. Et cette spécialisation des zones de la planète, c'est l'exact inverse de la souveraineté alimentaire, qui nous rend vulnérables à des accidents géopolitiques, et on l'a vu avec la guerre en Ukraine, à des accidents climatiques quand le climat se déchaîne sur certaines zones de la planète et donc nous rend vulnérables parce que notre alimentation dépendrait de ces échanges planétaires.
Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Se nourrir est un besoin primaire. Et donc, nous devons faire de ce besoin primaire une exception dans la négociation de ces accords de libre-échange et respecter, et c'est aussi ça la définition de la souveraineté alimentaire, la dimension culturelle de certaines productions agricoles revendiquées par certains peuples. Et puis, signer un accord de libre-échange, c'est le drame ultime de la mise en concurrence des paysans du monde entier entre eux. Nous devons au contraire construire des solidarités planétaires des paysans entre eux et participer à ce que les paysans nourrissent les peuples autour d'eux et non pas les mettre en concurrence. Tout ça contribue à la détresse du monde agricole, celle qui se manifeste depuis le début de l'année 2024 également dans notre pays. Et à ce titre-là, j'ai une pensée pour les lanceurs d'alerte, les résistants, les visionnaires qui ont dénoncé les accords du GATT, qui ont dénoncé les accords de l'OMC. Et je veux parler par exemple de ce sommet à Cancun, de ce sommet de l'OMC, où un leader syndical coréen s'est poignardé le cœur parce que ces accords poignardent dans le dos et dans le cœur les paysans du monde entier. Alors depuis 2024, effectivement, le monde agricole est en grave difficulté. Mais nous assistons à une crise structurelle qui conduit au suicide de 600 agriculteurs chaque année. Mais c'est l'héritage de 40 ans de politique publique qui les ont conduits précisément dans cette impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et la FNSEA, qui n'a de cesse de murmurer à l'oreille des différents ministres de l'agriculture, est la grande responsable de cette impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et cette cogestion nous conduit à des crises majeures. Et ce n'est pas les clauses miroirs que vous voulez mettre en avant, même si quand j'étais député européen, je les défendais. On peut mettre des douaniers, comme l'a proposé Madame la ministre de l'Agriculture, mais ces douaniers n'iront pas vérifier l'itinéraire de production des productions des zones de Mercosur. Ça n'est pas non plus les clauses de sauvegarde qui n'engagent pas les pays du Mercosur et qui, par leur lenteur administrative, interviennent beaucoup trop tard quand on constate les dégâts de l'importation de ces produits. Il valait mieux rassembler les États membres pour constituer la fameuse minorité de blocage. Sauf que le président Macron n'a jamais œuvré dans ce sens-là. J'étais député européen, je ne l'ai jamais vu tenter de rassembler cette minorité de blocage. Pire, la France a été présidente du Conseil pendant le premier semestre 2022 et n'a pas saisi cette occasion pour constituer cette minorité de blocage. Et donc la raison pour laquelle nous dénonçons ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le vote contre de Monsieur Macron n'est pas un vote sincère, c'est un vote de façade face à la crise des agriculteurs. C'est une hypocrisie au regard de l'action qu'il conduit depuis 2017. Et c'est un cynisme sans borne. C'est un cynisme sans borne de voter contre maintenant, alors que la majorité pour valider l'accord du Mercosur était acquise au Conseil. Et donc, cette sincérité fait que ce manque de sincérité, pardon, piétine aussi la démocratie, cher à mon ami François Ruffin qui est ici dans l'hémicycle. L'unanimité dans cet hémicycle a été acquise à deux reprises pour s'opposer à l'accord du Mercosur. Et Monsieur Macron, s'il était sincère, aurait utilisé la saisine de la Cour de l'Union, de la Cour de justice de l'Union européenne pour réclamer le fait que la procédure n'était pas en ordre. Le bloc central au Parlement européen devrait aussi saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour dénoncer ce qui s'est passé. Et puis, ces chevaliers blancs qui disent qu'ils sont contre le Mercosur. Je pense à mon collègue républicain qui a pris la parole juste avant moi. À quel parti appartient Ursula von der Leyen, si ce n'est au PPE? Donc, à un moment donné, il y a quand même une hypocrisie incroyable à nous dire que ce serait vous, les chevaliers blancs, qui dénoncez le Mercosur. Et puis, l'acte ultime, l'acte de cogestion, c'est ce plan d'urgence où il n'y a absolument aucune mesure de revenu, pas de prix plancher, ça a été dit tout à l'heure, cher à ma collègue Marie Pochon, c'est une dérogation au droit commun, c'est du non-respect aux règles européennes, les exemples sont multiples. Et donc, nous vous attendons, vous, le gouvernement, dans dans la future négociation de la PAC pour mieux la partager, pour mieux distribuer les subsides publics, sortir de ce 80-20 où 80% de l'enveloppe est captée par 20% des agriculteurs, ce qui veut dire que 80% des agriculteurs ne doivent se contenter que des 20% qui restent, et essayer au contraire de trouver d'autres logiques qui répondent à la crise du moment, qui répondent à la crise du revenu du monde agricole. Et donc pour ces raisons-là, nous, les écologistes, allons voter la motion de censure parce que ce ne sont pas avec ceux à l'origine du problème que nous allons trouver la réponse pour demain.
Place maintenant à la grande interview de Rachida Dati, la ministre de la Culture, par Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews.
La grande interview sur CNews et Europe 1, mon invité ce matin, est la ministre de la Culture, également candidate à la mairie de Paris. C'est peu dire que la bataille s'annonce intense. Bonjour et bienvenue Rachida Dati.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Merci de votre présence. Beaucoup de sujets à évoquer avec vous ce matin. En Iran, tout d'abord, les manifestations contre le régime des mollahs prennent de l'ampleur et sont réprimées dans le sang, avec aujourd'hui des exécutions par pendaison qui sont prévues, alors que Donald Trump laisse planer la menace d'une intervention militaire, que le Moyen-Orient est en ébullition, que le monde s'enflamme avec de nombreux rassemblements. Emmanuel Macron a finalement réagi hier soir en condamnant, je cite, la violence d'État. Que répondez-vous à certains qui affirment que c'est trop peu, c'est trop tard? Pourquoi une telle prudence, une telle retenue?
D'abord, vous l'avez dit, dans un Moyen-Orient et une région très inflammée, j'allais dire, et très inflammable. Et moi, je pense que ceux qui disent oui, faut agir tout de suite, faut tout faire, tout et n'importe quoi, on est dans les responsabilités. Ce sont des chefs d'État, ils agissent en responsabilité, ils font aussi des déclarations en responsabilité. Ce qui se passe en Iran est inacceptable, intolérable. J'allais dire, c'est un crime de masse. C'est une violence à l'aveugle que nous devons dénoncer et qui ne doit pas se poursuivre. Et évidemment, vous avez le chancelier allemand qui a pris position, le président français, et c'est une réalité, il faut prendre position. Je rappelle aussi que nous avons encore deux otages, évidemment, en Iran, et tout ça doit se faire avec aussi beaucoup de, j'allais dire, de discernement. Malheureusement, on est obligé, nous avons aussi nos compatriotes qui sont retenus en Iran, et donc tout ça se fait en considération de tous ces éléments. Donc il faut condamner fermement, et c'est pas parce que on fait une déclaration publique une seule fois qu'il n'y a pas d'action ou d'agissement ou de réaction ou évidemment des relations qui se tissent pour pouvoir évidemment enrayer, empêcher évidemment cette violence à l'aveugle. C'est une réalité.
Et le combat, Rachida Dati, c'est aussi celui des iraniennes, des femmes iraniennes qui se battent pour échapper au joug des fondamentalistes religieux. Hier, à votre place, l'eurodéputée la France insoumise Manon Aubry estimait que le voile, alors elle dit que le voile est un bout de tissu
très vite par ce côté obscur et noir, c'est-à-dire que c'est arrivé à enfermer immédiatement les femmes. Les femmes sont toujours les premières victimes d'une dictature, d'une autocratie, de violence, j'allais dire de ces meurtres. Ce sont les premières victimes. Et de dire que ce voile est un bout de tissu, je vais vous dire, y compris pour les femmes qui le portent en conscience, j'allais dire, pour certaines, elles disent en liberté, ça n'est pas un bout de tissu, c'est autre chose. C'est un symbole pour certains religieux, pour d'autres politiques. Et quand les deux sont combinés, c'est très dangereux. Et donc, j'ai trouvé assez irresponsable cette déclaration de dire que c'est un bout de tissu. Ça n'est pas un bout de tissu. Ça emporte beaucoup de choses. D'ailleurs, quand vous avez face à vous une femme qui porte le voile, vous-même, dans votre comportement, vous n'avez pas le même que si c'était un bandeau ou un petit fichu sur la tête.
Vous-même, vous n'avez pas la même attitude.
Je n'ai pas la même. Quand je veux dire, je n'ai pas la même attitude parce que je sais qu'il y a un message qui est donné par cette personne quand elle est face à moi avec un foulard qui n'est pas qu'un bout de tissu.
En tout cas, l'enlever en Iran, on sait malheureusement ce que ça conduit et ce que ça donne et soutient, on peut le dire, hein, aux Iraniens et
bien sûr,
aux
Iraniennes
ce matin. On revient sur le plan strictement politique en France, Rachida Dati, tandis que la colère des agriculteurs ne faiblit pas. Des tracteurs sont prévus dans la capitale. La semaine s'annonce également compliquée sur le plan politique. Il y a deux motions de censure, LFI et RN, sans compter les discussions sur le budget, toujours ardues. Emmanuel Macron a émis l'idée d'un haut commissariat à la diversité pour, dit-il, mobiliser les diasporas avec des figures telles que Christiane Taubira, Pap Ndiaye, Lilian Thuram, Najat Vallaud-Belkacem, Amel Bent. Nous qui pensions que la République était une et indivisible, que pensez-vous d'une telle initiative? À quoi elle renvoie?
Alors, je n'ai pas été consultée sur ce sujet, donc je ne suis même pas au courant de cette initiative. Parce que ce qui se dit, moi je fais toujours très attention à ce qui sort et dans la presse. D'abord, soit c'est faux, soit ça peut être déformé. S'agissant d'un commissariat à la diversité, ça existait. Moi je me souviens sous Nicolas Sarkozy, avec le commissariat à la diversité, qui était présidé par Yazid Sabeg, qui a d'ailleurs fait long feu, et s'est très vite arrêté. Moi je veux dire, je n'y suis pas favorable. Regardez Sonia, vous-même ou moi-même, est-ce que quelqu'un a une lecture ethnique de notre parcours ? On a une autre lecture de nos parcours personnels.
C'est grave,
nous avons,
président,
nous avons,
lecture-là.
Nous avons,
lui qui est le garant de l'universalisme.
Non, c'est pour ça, parce que ça a été décrit comme cela dans la presse.
Est-ce que c'est pas pour le cas ça, quand vous voyez qui
moi,
en fait partie
ça n'est, non, parce que d'abord...
Ils sont tous français d'abord.
Non. Il n'a pas été créé. C'est une rumeur et c'est une phrase dans
alors,
la presse.
Si donc tel je était pas... le cas, qu'est-ce que vous diriez si
moi,
vraiment
Amel Bent, je n'y suis pas favorable. On peut pas qu'il y ait des discriminations en France. Oui. Qu'il y ait des inégalités en France. Oui. C'est contre cela qu'il faut lutter. Moi, j'ai trop souffert. Rappelez-vous de l'arrivée de SOS racisme dans certains quartiers.
Le droit à la différence
a créé beaucoup de dégâts. Le droit à la différence a été une manière d'exclure certains, de dire que finalement, vous n'êtes pas un citoyen que français comme d'autres
et à part entière. Peut-être pouvez-vous le dire au président de la République.
Mais bien sûr, mais je ne crois pas que ce soit dans son projet. En tout cas, moi, j'ai pas été consultée et ce que j'ai lu dans la presse, je l'ai découvert comme vous-même.
Est-ce que ça vous étonne de la part de quelqu'un qui avait dit qu'il n'y a pas une seule culture française, mais des cultures,
non, alors,
qui parfois a un penchant
vous allez
pour
me dire,
le communautarisme,
non,
et pas forcément
non,
l'universalisme.
Alors, moi, je vais
alors c'est un procès d'intention.
Plus nuancé que ça. Vous allez dire, je défends le président de la République parce que c'est le président que je suis ministre. Je suis plus libre que ça et la qualité qu'il a, c'est qu'il laisse une vraie liberté. Regardez. Sur ses ministres. Moi, j'ai été ministre, je peux vous dire qu'on n'avait pas à prendre position sur le portefeuille d'un collègue du gouvernement. Là, tout le monde peut parler, dire ce qu'il veut sur le portefeuille du voisin, sur la politique nationale, internationale, chacun dit ce qu'il veut. Nous, à l'époque, on ne fonctionnait pas comme ça. Donc, il laisse une vraie liberté en responsabilité à chacun. Si demain, il me venait à me consulter sur ce sujet, je lui dirais ce que j'en pense.
Vous lui direz quoi ? Vous lui direz que la France, ce n'est pas l'exaltation des différences ?
Exactement. Moi, je trouve que je vous dis, il faut lutter contre les discriminations et les inégalités, de pouvoir donner un critère qui n'est pas objectif par rapport pour faire une différence entre les individus, ça conduit au communautarisme, ça conduit au séparatisme.
En préparant cela, Rachida Tadi, j'ai trouvé une vidéo de vous-même il y a une dizaine d'années, vous disiez, moi je ne suis pas une icône de la diversité.
Moi, ça veut rien dire.
Je ne me revendique pas comme telle. Le critère, c'est le social, c'est la méritocratie, c'est le dépassement de soi. Je suppose que vous voulez être...
Moi, je me souviens d'un débat que j'avais eu sur une émission qui s'appelle Europe Express, qui était animée par Christine Ockrent. Et j'avais un débat avec Krivine. Mm-hmm. Et il disait, oui, justement, ce droit à la différence. Et il disait, oui, il y a plus de discrimination vis-à-vis des basanés. Je le cite, vous pouvez retrouver l'émission. Vous voyez, ça me revient en mémoire. Et j'étais à côté de lui. Et donc, qui est une lutte contre les discriminations, c'est illégal, contre les inégalités, c'est mon combat depuis toujours. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais j'étais magistrat, hein. Je lui ai dit, mais est-ce que vous me considérez comme une basanée ou pas une basanée ? Parce qu'il disait, mes amis basanés. Et il était très gêné. Et donc,
on peut le comprendre, qu'il soit gêné,
voilà, on en arrive à ça.
Mais
on en arrive à ça.
Est-ce que bientôt, il y aura un haut commissariat au blanc, alors ?
Ou aux basanés.
Voilà. Donc CQFD pour les
initiatives. Donc moi je ne suis pas. Enfin vous dites Madame Abrouk, c'est une initiative du président. Ça n'a pas été évoqué. On n'a pas été consulté. Et je suis ministre de la Culture. Je pourrais être dans la boucle. Justement pour ces raisons. Voilà. Et donc ça n'a pas été le cas. Et ce que j'ai vu dans la presse, que chacun a interprété, moi je n'y suis pas favorable.
En tous les cas, beaucoup vous considérez, il faut le reconnaître, Rachida Tadi, comme le symbole de ce dépassement dans votre parcours, un parcours qui pourrait vous mener jusqu'à l'hôtel de ville de Paris. En attendant, les récents sondages vous donnent au coude à coude avec le candidat socialiste Emmanuel Grégoire. Après 25 ans de socialisme, qu'est-ce qui pourrait vraiment faire basculer la ville et la capitale?
De sondage en sondage, quel est le premier enseignement de ces sondages ? C'est que les Parisiens, depuis 2001, c'est historique, veulent l'alternance, ils veulent un changement. Et donc, ça, c'est historique. Et donc, moi, je dis, nous avons une possibilité de changer Paris, mais radicalement. Et donc, c'est en votant, évidemment, pour cette alternance. Je l'incarne.
Vous êtes la candidate de l'alternance, c'est ça l'enjeu
de cette bataille ? Je suis la candidate de l'alternance. Mais vous savez, alors certains se focalisent sur ma personnalité. Elle clive pas. Moi, je suis déterminée. J'ai de l'énergie. Je l'ai de l'ambition pour cette ville. Mais je ne suis pas seule. J'ai une équipe. Nous avons des élus qui sont déjà implantés, qui ont une expérience, qui évidemment, qui ont une vision et une ambition pour Paris. Nous avons l'expérience. Nous avons les
certains
talents.
Certains pourraient vous dire la même chose. Emmanuel Grégoire vous dit, ben moi, je suis implantée depuis longtemps.
Attendez,
j'ai
justement,
l'expérience et l'équipe.
Nous répondons, si de sondage en sondage, les Parisiens nous disent qu'ils veulent l'alternance, c'est que nous avons fait des propositions crédibles. En termes de logement, en termes de sécurité, en termes d'attractivité, en termes de propreté,
de réduction
en termes
de dette,
mobilité, en termes de réduction de dette, vous avez raison de le mentionner. Alors là, le choix, il est simple, il est basique. C'est stop ou encore. Est-ce que vous voulez continuer?
Stop ou encore quoi?
Est-ce que vous voulez continuer avec cette équipe, la même? Depuis 25 ans, la même.
C'est un autre visage, monsieur, notre candidat.
Monsieur Grégoire a été le premier adjoint de Madame Hidalgo. Comme je lui dis récemment, elle a décidé, il a exécuté. Il a été son premier adjoint. C'est fort d'être premier adjoint du maire d'une ville. Il s'est associé à monsieur Béliard, qui s'est associé à monsieur Brossa. Maintenant, il y a des transfuges de LFI. Ils vont jusqu'à l'extrême gauche, ils font les fonds de tiroir pour pouvoir se compter, pour pas perdre leur siège. C'est pas qu'ils veulent pas perdre Paris, ils veulent pas perdre leur siège. Moi, je vais vous dire, il y a un élément majeur que j'invite les Parisiens à voir. En décembre 25, pas en décembre 1912, en décembre 2025, un budget a été voté par M. Grégoire, M. Béliard, M. Bressa et Mme Hidalgo.
Que contient-il ?
Et que contient-il ? Une baisse forte d'investissement sur les collèges et les lycées. Une baisse forte sur la sécurité. Vous voulez une police municipale armée ? Elle n'existe pas. Vous voulez plus de caméras de vidéoprotection ? Ça n'existe pas. Vous voulez plus de sécurité ? Ça n'existera pas. Vous voulez, évidemment, un périscolaire plus sécurisé ? Nous avons un outreau du périscolaire aujourd'hui à Paris, avec des animateurs qui agressent et qui violent des enfants.
Donc vous êtes la candidate de l'alternance, dites-vous, de la crédibilité.
Non, juste pour partir.
On parle que le candidat face, il propose toujours moins de sécurité, plus d'impôts, plus de dettes.
Oui, je vous invite à regardez le budget voté en décembre par cette équipe. Il y a 12 milliards de dettes. Le taux de désendettement, c'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre régionale des comptes. Aujourd'hui, pour désendetter Paris, il faut près de 40 ans. Le seuil d'alerte pour une collectivité locale, c'est moins de 12 ans. Donc nous sommes déjà en zone rouge. Compte-t-il augmenter ? Il y a dans ce budget 800 millions d'euros pour du logement social préempté à prix d'or. Attendez. Oui. Non, c'est pas tout le budget, c'est des marqueurs. Est-ce que vous voulez, ça sera un budget qui sera mis en œuvre en 2026 par cette équipe qui est aux manettes depuis 25 ans. 12 milliards de dettes, du logement social préempté à prix d'or, 2 milliards, près de 2 milliards pour des subventions à des associations clientélistes, moins de sécurité, moins de propriété.
Vous êtes ministre d'un gouvernement qui, alors là, fait exploser tous les compteurs de la dette et ce matin, vous donnez des leçons pour
Paris. Oui, mais alors je vais vous dire, le bilan de monsieur Macron, c'est quoi? Du président Macron, c'est 1,4 milliard de plus pour la culture, pour une démocratisation beaucoup plus importante. C'est 2 millions d'emplois industriels qui ont été créés.
Je peux ajouter les 3 000 milliards de dettes.
Mais attendez.
C'est aussi votre bilan?
Mais je vous dis, on assume. Il y a effectivement, il y a eu le Covid, il y a eu une crise financière, il y a, certains vous le disent en disant, on a eu les amortisseurs nécessaires. Et il n'a pas été remis en cause la santé des Français, l'emploi des Français, tous ces amortisseurs, notamment la protection des Français. Toute cette protection, elle a été financée. Pour autant, 2 millions de points d'emplois industriels créés. Évidemment, une prime d'activité, un pouvoir d'achat amélioré.
Attention, vous allez pour la candidate macroniste,
mais non,
et pas seulement de droite.
Mais non, c'est pas ça. Non, qu'on n'ait pas tout fait bien, oui, il y a eu des crises. Quand vous êtes un homme d'État, vous avez un projet, vous avez une vision, une ambition pour un pays, et vous adaptez en fonction des crises. C'est comme ce qu'on disait sur l'Iran. C'est pas le tweet qui va résoudre ce qui se passe en Iran, c'est ce qui se passe derrière,
justement,
en responsabilité.
Alors, parlons des actions.
Non, mais c'est pour ça que, pour Paris, je le redis, Madame Mabrouk, nous avons une chance historique de faire basculer Paris. Je le redis, non, ça n'est pas majeur, ça n'est pas mineur. Simplement, le budget qui a été adopté en décembre 25 va être mis en œuvre en 26 avec moins de sécurité, pas de mobilité, encore plus d'entraves pour l'attractivité et encore plus de problèmes
de
sécurité.
Donc vous dites, vous êtes la candidate de l'alternance, vous êtes la candidate de la crédibilité, mais est-ce que vous pouvez gagner seule ? Il y a eu
Remarquée. Paris s'est vidé de ses forces vives. Près de 150 000 Parisiens ont quitté Paris. 50 000 enfants ont quitté les écoles parisiennes. Non mais Madame Mabrouk, vous êtes maire de famille. On ne peut pas accepter qu'une ville se vide de ses forces vives.
Pour arriver à faire face à tous ces défis, est-ce que que vous avez besoin, eh bien, de candidatures, j'allais dire amicales entre guillemets. Est-ce que vous les considérez ainsi, Sarah Knafort, dans la course?
Oui, mais tout l'émiettement. Si on a un émiettement des voix et des votes au premier tour, je l'ai dit, c'est un chèque en blanc que nous donnons à la gauche et à l'extrême gauche.
C'est-à-dire quoi? Que Sarah Knafort et Pierre-Yves Bournazel risquent de vous faire perdre?
Moi, je dis tout émiettement au premier tour. L'alternance est compromise. Je le dis en responsabilité. Voilà. Et puis, quand ils font des propositions, ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Les propositions, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est pour ça que moi, je dis aux journalistes...
Le monopole de la crédibilité dans cette bataille parisienne.
Parce qu'on a une expérience. Aujourd'hui, on a une expérience, on a des propositions. Mais... Nous avons fait des contre-propositions. De Conseil de Paris en Conseil de Paris, que vous avez observé, nous avons fait des propositions qui ont été rejetées.
Et il est vrai que vos saillies par rapport à Anne Hidalgo sont très remarquées.
Mais vous avez un bilan. Est-ce que M. Grégoire peut se départir du bilan de Mme Hidalgo? Il a été son premier adjoint.
Est-ce que vous, pouvez départir du bilan de M. Macron?
Mais moi, je suis élue de Paris. Je suis élue de Paris. Je ne suis pas présidente de la République. Je ne suis pas Premier ministre. Voilà, je suis ministre de la Culture. Est-ce que le budget de la culture a baissé? Je me suis battue pour qu'il ne baisse pas. Bien au contraire. Est-ce que la démocratisation de la culture a reculé? Non. Sur la protection du patrimoine, regardez, nous avons battu des records de visites sur les monuments historiques nationaux. Notre patrimoine, c'est un patrimoine commun, c'est une communauté de destin.
Vous n'avez pas répondu sur Sarah Knafort. Elle vous dit, elle assure ne pas vouloir faire perdre la droite et elle se dit même prête à travailler avec vous. Est-ce que vous dites ce matin, non, l'union fait la
moi
force?
Moi, j'appelle tous les Parisiens. Certains peuvent dire, moi, le Parisien dit, je voterai pour vous au deuxième tour. Ou certains disent, je vais voter pour quelqu'un d'autre au premier, mais je vous assure que vous aurez mon vote au deuxième tour. Je dis aux Parisiens, ne perdons pas,
vote utile,
il faut un vote utile. Nous avons une chance historique de changer Paris.
Mais c'est une alliée ou pas?
Nous avons une chance. Moi, mes alliés, c'est les Parisiens. Vous savez très bien. Donc, regardez sur la politique des partis.
Vous partez seul en bataille.
Non, je ne suis pas seul. Je suis avec une équipe. Nous avons des élus implantés.
Mais pas avec
nous
des avons candidats. Des... Vous mais considérez qu'on n'avait pas de.
C'est
candidats.
Les Parisiens qui votent. Vous savez, Madame Mabrouk, le mode de scrutin a changé.
Ah oui.
Pour une fois, c'est historique aussi. Les Parisiens pourront voter directement pour leur maire. Ils auront un bulletin Rachida Dati, quel que soit l'arrondissement.
Oui, mais moi, je veux savoir nous gagnerons qu'il y a en dessous du bulletin Rachida Dati. Je m'étonne de voir,
j'ai une
par
équipe.
Exemple, bien sûr,
j'ai
Rachida Dati.
J'ai des
mais
élus.
Par exemple, vous n'avez pas. Donc, on a bien compris que vous dénoncez l'émiettement, mais vous n'avez pas de scrupule à échanger, lit-on dans la presse, vous allez nous confirmer si c'est le cas ou pas, avec Madame Sophia Chikourou, candidate de la France Insoumise, proche de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous avez noué une sorte de pacte non-agression?
Non, vous savez, Madame Chikourou, Monsieur Grégoire voulait la rallier. Elle n'a pas voulu. Donc, il me la renvoie. Mais moi, je ne suis pas à l'extrême gauche, ça ne vous a pas échappé. Voilà. Je ne suis pas LFI. On n'échange pas sur la politique, pas du tout. On n'échange pas tout court, d'ailleurs.
On peut échanger, d'ailleurs, entre
responsables
politiques.
Mais bien sûr, moi, j'échange.
Quand même.
Vous savez, ma force, je parle avec tout le monde, y compris avec des opposants. Je parle avec tout le monde.
Vous ne parlez pas de la bataille à Paris. Vous ne vous dites pas que
non,
votre
mais,
adversaire
on ne se parle
commun,
pas.
C'est M. Grégoire.
Mais, je n'ai pas d'échange avec elle. Ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon allié. Nous n'avons pas mené des combats communs. Ce qui nous rassemble, mais c'est pour tous les candidats. On se présente à une élection. Voilà. On se présente à une élection, on présente un projet. Mais il faut faire attention. Moi, je le dis, par exemple, des chefs d'entreprise, les commerçants. Les commerçants à Paris, dès lors où vous êtes commerçant, vous pouvez voter à Paris. Inscrivez-vous, vous avez jusqu'à la fin du mois, inscrivez-vous sur les listes. Vous êtes les premières victimes de cette politique de gauche, de ce chaos qui existe à Paris. Inscrivez-vous et votez. C'est notre chance de changer Paris. Je parle à tous les Parisiens. Vous pourrez avoir un bulletin. Rachida Dati, pour le changement à Paris. C'est important de le rappeler. Et je vous le dis, tout émiettement, c'est un chèque en blanc à la gauche et
vous
l'extrême
le
gauche.
C'est à bon entendre, voilà. Alors vous le dites surtout
mais
à Sarah Knafort et à Pierre-Yves Bournazel.
Exactement, mais je le dis à tout le monde. C'est pour ça que M. Grégoire essaye de faire oublier qu'il est le premier adjoint de Mme Hidalgo. Et ce qu'il propose en ce moment, pourquoi il ne le met pas en œuvre? Regardez, il y a un scandale dans le périscolaire, les animateurs scolaires. Moi, j'ai une politique sur le périscolaire. Je mettrai des animateurs. Pour le périscolaire, c'est un métier d'être animateur. Vous ne confiez pas vos enfants à des agresseurs sexuels ou des prédateurs. Et donc, là, ils n'ont même pas reçu les familles. Il est encore élu. Bon. Il est dans la majorité municipale.
Ce sujet si
et donc, il est important de le faire parler sur ce bilan. Ce bilan, c'est aussi...
On le recevra également, évidemment.
C'est aussi son bilan. Il ne faut pas l'oublier. Nous incarnons le changement et l'alternance. J'appelle tous les Parisiens à pouvoir se mobiliser et voter pour nous, pour Rachida Dati, pour mon équipe,
Madame
pour un changement historique pour Paris.
Vous avez d'autres dossiers. Après une interruption, la commission d'enquête sur l'audiovisuel public va finalement reprendre le 19 janvier prochain ses auditions. Mais son rapporteur, le député UDR Charles Lalonde, sera sous étroite surveillance de ses collègues après les pressions, en tous les cas, la mise en garde, on va dire, de la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet. Voilà que le président de la commission, Jérémy Patrier-Leitus, qui a décrété de nouvelles règles, il est désormais interdit de communiquer en temps réel sur les réseaux sociaux pendant les auditions. Il est recommandé, dit-on, d'avoir une parole plus mesurée dans la presse. Alors ma question est simple. Est-ce qu'il a posé les bonnes questions qui dérangent Monsieur Lalonde?
Quand vous êtes parlementaire et que vous demandez des comptes à toute institution qui, évidemment, est financée par l'argent des Français, c'est sain. Les commissions parlementaires, c'est ça. Ce sont des parlementaires qui demandent des comptes au nom des Français sur l'utilisation de l'argent public. Mais le débat en ce moment sur l'audiovisuel public est totalement dévoyé. Moi, je le dis.
Par qui ?
Est totalement dévoyé, y compris par certains qui sont dans l'audiovisuel public. Je leur dis, vous vous trompez de combat. Moi, ma position a toujours été claire, sans être ministre de la Culture. Moi, mon parcours culturel, si je puis dire, il a été fait grâce à l'audiovisuel public. Je veux que l'audiovisuel public reste fort et reste public. Et cette polémique de s'opposer, de se bagarrer avec les médias privés et tout, c'est une fausse querelle. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? C'est d'avoir un audiovisuel public fort, renforcé, avec des moyens. C'est moi, grâce aussi au sénateur Vial. Attendez, bien sûr, c'est l'argent des Français. Attendez, pour finir. Ouais. Grâce au sénateur Vial et au sénateur Lafont, j'ai sanctuarisé le financement de l'audiovisuel public, ce qui ne devait plus être le cas à compter du 1er janvier 2025. Et donc, c'est important de le rappeler. Il faut que les forces soient rassemblées, mieux organisées, avec une stratégie plus cohérente, qui s'adresse à tous les Français, que cet audiovisuel soit pluraliste, et qu'il soit financé.
Représentatif des Français,
exactement.
Financé, transparant. Et pour ça, est-ce qu'il faut remettre des pièces comme celles qui ont été demandées, notamment par le député Charles Lalonde, comme les contrats de sociétés de production, comme ceux de Nagui et d'autres? Est-ce qu'on peut disséquer le budget production de France Télévisions?
Est-ce que
c'est légitime pour
le ministère de la Culture a une tutelle, on demande des comptes, ça nous remonte. Il est légitime que la représentation nationale demande, évidemment, où va l'argent des Français dans le financement de programmes de production. Par exemple, Radio France est plus intégrée, France Télévisions sous-traite beaucoup plus sur des maisons de production. C'est une autre manière de gérer leur production, que chacun puisse, évidemment, en transparence, fournir les éléments demandés par la représentation nationale. Moi, ça me semble tout à fait légitime et sain.
Rachida Dati, vous permettez trois questions vraiment courtes, si vous pouvez amener des réponses tout aussi courtes. Hier, le Louvre était fermé pour cause de grève. Faute d'avancées suffisantes dans les négociations engagées avec le ministère de la Culture, apportent les syndicats. Est-ce qu'on va venir au bout de cette grève et de tout ce qui a secoué surtout le Louvre?
D'abord, je rappelle que les opérateurs culturels, un opérateur comme le Louvre, c'est un établissement autonome. Le ministère de la Culture n'est pas en gestion directe du musée du Louvre. Il y a effectivement un problème de gouvernance, il y a un problème évidemment de responsabilité, et simplement aujourd'hui, moi je suis en direct, je reçois les syndicats, les organisations syndicales, qui ont des préoccupations et des revendications qui sont légitimes, elles le savent parce que je les reçois, et donc évidemment, nous allons prendre nos responsabilités très prochainement.
Pour conclure, procès de Marine Le Pen en appel. La présidente du Rassemblement National risque l'inéligibilité. Les magistrats, dont Rémi Heitz, affirment que les magistrats dans cette affaire agissent en totale indépendance et que ce n'est pas un procès politique. Il a raison. Oui, non.
Moi, ce que je veux vous dire, il ne faut pas instrumentaliser la justice à des fins politiques. Je vous le dis.
Et
je le
dis avec beaucoup de distance. Avec des affaires à venir en septembre.
Non, j'ai ce contrat Renault qui ne concerne pas de l'argent public. C'est un contrat privé, de droit privé. Et donc, moi, je m'en expliquerai. J'ai aucune difficulté là-dessus. Moi-même, je suis magistrat statutairement. Je dis simplement, faisons attention à l'instrumentalisation de la justice. Cette institution est trop noble pour pouvoir l'instrumentaliser à des fins politiques, pour ne pas dire politiciennes, ou pour éliminer des candidats à des élections, et notamment à l'élection suprême.
Et en fait, les 200 ans du Figaro, la ministre de la Culture a forcément un lien, évidemment, et la responsable politique étroit avec le Figaro. Vous avez même dit qu'entre vous et le Figaro, c'est du sérieux, rappelant une phrase il y a quelques années. J'imagine que ça remonte au début de votre parcours.
Moi, j'ai fait une petite vidéo pour eux, pour le Figaro. Le Figaro a changé ma vie. Parce que, comme vous le savez, j'ai été aide-soignante de nuit pendant près près de 6 ans. Et il y avait une salle de soins où il y avait des journaux, il y avait un Figaro. Et dans ce Figaro, j'ai trouvé une interview de Alma Chalandon. Et ce qui m'avait interpellée, c'était son prénom. J'ai lu l'interview. 6 mois plus tard, je l'ai rencontré. Il a changé ma vie. Donc voilà.
Et à son âme, c'est à Catherine Ney. Et puis pour le Figaro, à Alexis Brézé, Vincent Trémollet, toute l'équipe, évidemment.
Bah, nous serons ce soir aux 200 ans.
Effectivement. Ouais. Et demain, Europe 1, matinale spéciale depuis le Grand Palais. Merci, Madame la
Merci
ministre.
Merci à vous, Madame
Dati.
Merci.
Enfin, terminons par la grande interview de Manon Aubry, l'eurodéputée La France Insoumise, par Sonia Mabrouk.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues. J'aimerais baser mon propos sur des fondamentaux. D'abord préciser que des échanges planétaires ne passent pas forcément par des accords de libre-échange. Je viens d'une belle région où on produit un produit merveilleux avec lequel je suis absolument pas fâché, qui s'appelle le cognac. 98% de la production de cognac est exportée et nous n'avons pas besoin d'accords de libre-échange pour exporter 98% des volumes de cognac. Donc il faut cesser avec ce mythe qui consiste à penser que pour faire de l'économie, des échanges planétaires, nous avons absolument besoin des accords de libre-échange. Sauf que quand on conclut des accords de libre-échange, on s'impose des contingences de volume. Or, c'est précisément ces contingences de volume qui nous pose un problème. Non pas que la viande bovine venue du Mercosur va venir inonder le marché européen de la viande. On a calculé, c'est à peu près un steak par an par citoyen européen. Mais l'entrée de ces volumes contingentés fait qu'on va tirer vers le bas les produits carnés, les produits de viande bovine, et que ces produits qui tirent le prix vers le bas ne permettront plus aux producteurs européens de vendre au juste prix la viande qu'ils produisent sur nos territoires avec des standards de production nettement supérieurs à ceux qui sont obtenus sur le continent européen. Et donc, cet accord de libre-échange avec ses contingences de volume font que l'agriculture devient la variable d'ajustement, que l'agriculture devient la monnaie d'échange pour pouvoir commercialiser des grosses berlines allemandes, pour pouvoir commercialiser des avions, pour commercialiser des services. Or, ce que ça veut dire, très, très concrètement, ça veut dire que nous sacrifions un secteur économique majeur, qu'est l'agriculture européenne, pour pouvoir exporter ses productions. Alors qu'il nous faudrait précisément réclamer l'exception agricole. Il n'est pas question de dire on ne veut plus d'accord de libre-échange, il est question de dire qu'on parle d'un besoin primaire, celui de se nourrir, et que les productions agricoles devraient être systématiquement écartées de ces accords de libre-échange, précisément pour que l'agriculture ne soit pas la monnaie d'échange, ne soit pas la variable d'ajustement de ces accords de libre-échange. Ensuite, on convoquerait la souveraineté alimentaire pour justifier ces accords de libre-échange. Je vais rappeler, et je le répète à l'envi, que ce qui menace la souveraineté alimentaire aujourd'hui, c'est le dérèglement climatique, c'est l'effondrement de la biodiversité. Or, cet accord de libre-échange accélère précisément ces deux périmètres, effectivement. Et donc, pour ces raisons-là, nous, les écologistes, allons voter la motion de censure, parce que ce ne sont pas avec ceux à l'origine du problème que nous allons trouver la réponse pour demain.
Écoutons maintenant le député Les Écologistes Benoît Pitot s'opposer au Mercosur.
La grande interview sur CNews et Europe 1, mon invité ce matin est l'eurodéputé de la France Insoumise, Manon Aubry. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Beaucoup de sujets à vous soumettre ce matin, notamment le désordre du monde et notamment en Iran ce qui s'y passe, une répression brutale et sanglante. Mais tout d'abord, Manon Aubry, c'est donc cette semaine, ce samedi, que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, va signer au Paraguay l'accord du Mercosur. Bruxelles envisage même, et c'est inédit, d'accélérer son entrée en vigueur sans attendre le vote du Parlement européen. Vous allez nous en parler. En France, la colère des agriculteurs reste vive. Le port du Havre est bloqué, l'autoroute A1 entravée. Est-ce que vous nous dites ce matin que le combat est définitivement perdu?
Non, il est loin d'être définitivement perdu et c'est combative que je viens devant vous ce matin. Cet accord de libre-échange, on l'a beaucoup dit ces dernières semaines, c'est le pire accord jamais signé par l'Union européenne qui va être une catastrophe pour les agriculteurs, de la concurrence déloyale, des centaines de milliers de tonnes de bœuf, de volaille, de maïs, de soja déversés dans l'Union européenne qui vont nous empoisonner puisque, par exemple, un tiers des pesticides qui sont autorisés au Brésil sont interdits dans dans l'Union européenne. Et c'est évidemment une catastrophe écologique. Pourquoi aller chercher à l'autre bout du monde ce qu'on produit ici? Maintenant qu'on est tous d'accord sur la catastrophe que cela représente.
Presque tous, oui.
Presque tous. J'observe d'ailleurs qu'Emmanuel Macron n'a pas fait grand-chose pour arrêter cet accord depuis 8 ans qu'il est président de la République.
Et pourtant, il vote contre.
Il vote contre, mais il a dit à plusieurs reprises qu'il voyait d'un œil positif cet accord de libre-échange et il n'a rien fait depuis 8 ans pour créer cette fameuse minorité de blocage qui était nécessaire. Et on n'aurait jamais imaginé, il y a 15 ou 20 ans, qu'un tel accord puisse être mis en œuvre.
Ça fait 25 ans qu'il est sur la table des négociations.
25 ans.
Et maintenant, dans la dernière ligne droite, Manon Aubry.
Je vous disais, c'est une catastrophe sur le fond, mais c'est aussi un coup de force antidémocratique comme jamais on a vu. Non seulement il contourne les parlements nationaux qui normalement doivent être consultés, mais en plus de cela, pour la première fois de l'histoire, ils vont mettre en œuvre cet accord sans l'approbation du Parlement européen. Cette mise en œuvre provisoire, pour bien mesurer ce qui se passe, elle va contre les traités européens eux-mêmes. Normalement, le Parlement européen est codécisionnaire, c'est-à-dire qu'il a le même niveau de décision que les États membres et la Commission européenne.
Donc attendez, vous voulez dire qu'avec cet accord, on s'est assis, si je puis dire, sur les parlements nationaux et maintenant sur le Parlement européen ?
Exactement.
Alors de quel levier vous disposez encore ?
Alors, pour nous, la bataille est très loin d'être terminée. J'ai déposé au Parlement européen, j'ai initié un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne qui a depuis été signé par 145 députés, issus de 5 groupes politiques différents et de 21 nationalités différentes, ce qui montre au passage que la mobilisation n'est pas que franco-française. La présidente du Parlement européen, elle aussi, fait tout ce qui est en pouvoir pour tenter de bloquer ce recours devant la Cour de justice. J'observe d'ailleurs que la présidente du Parlement est du même groupe que François-Xavier Bellamy. Le rapporteur sur cet accord est du même groupe que François-Xavier Bellamy. La présidente de la Commission est du même groupe que François-Xavier Bellamy. Bref, tous les promoteurs de cet accord. Et normalement, cet avis devrait être soumis au Parlement européen la semaine du 19 janvier. Et s'il est voté, ce sera suspensif de l'accord. Ce qui veut dire que l'accord ne pourra pas être mise en œuvre, y compris de manière provisoire.
Donc la Cour de justice de la Commission européenne qui jugerait cette même Commission européenne.
C'est la Cour de justice de l'Union européenne qui est indépendante. Il y a plein de raisons de penser que cet accord est illégal, ne serait-ce que il contrevient au principe de précaution.
Et pourquoi maintenant ? Pourquoi si tard cette lettre ?
Alors, l'avis, c'est pas une lettre, l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne, nous, ça fait des mois qu'on la demande, et la présidente du Parlement européen a outrepassé son rôle et son pouvoir pour le bloquer jusqu'à présent. Maintenant qu'il va être officiellement signé, elle ne pourra plus bloquer cet avis, raison pour laquelle il va être soumis au vote. Et puis, quand bien même il y a une application provisoire, tôt ou tard, il y aura un vote du Parlement européen, et moi, je préside au Parlement européen, le seul groupe qui n'a jamais donné aucune voix à aucun accord de libre-échange. Oui. Donc,
d'ailleurs, beaucoup vous reprochent, par exemple, de l'avoir fait sur le CETA, alors que le bilan quelques années plus tard est plutôt positif compte tenu des investissements directs étrangers.
Le bilan n'est absolument pas positif s'agissant du CETA. On importe du bœuf aux hormones. Si vous, pour vos enfants, vous voulez manger des cochonneries, pour mes enfants et les générations qui viennent, je préfère que les normes écologiques et sociales qui s'appliquent en Europe s'appliquent pour l'ensemble des denrées alimentaires qui sont consommées en Europe. Donc, je veux dire ici, la bataille n'est pas terminée. Je veux dire aux agriculteurs qui nous écoutent qu'avec notre groupe de la gauche au vent, on continue à mener la bataille et qu'il faudra demander des comptes. Alors, parce que j'entends Céline Imar et d'autres députés, même Jordan Bardella, mais qui commencent par faire le travail dans leur groupe parce que les députés qui sont favorables à cet accord se trouvent sein du groupe socialiste, au sein du groupe de droite,
au Parlement
et au sein de l'extrême droite.
Français, à l'Assemblée nationale, eh bien LFI et RN vont déposer une motion de censure, en particulier contre le Mercosur. Le PS, de son côté, annonce Manon Aubry ne pas voter cette motion car la France, tout simplement, a voté contre l'accord du Mercosur. Comment vous qualifiez la décision des socialistes ?
Extrêmement regrettable. Et franchement, le Parti Socialiste démontre une fois de plus qu'ils sont la bouée de secours du macronisme. C'est pas la première fois qu'ils viennent en renfort des macronistes pour assurer de leur survie. Et moi, si j'étais un électeur socialiste, je m'en demanderais bien dans quelle galère se met encore le Parti Socialiste à non seulement assurer la survie sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Sans doute veulent-ils masquer que au Parlement européen, ceux qui soutiennent cet accord, c'est le groupe socialiste, mais aussi sur le budget.
On va en parler, mais c'est quand même assez incroyable quand même que contre le Mercosur, vous retrouviez là, main dans la main, si je puis dire, avec le Rassemblement National.
Écoutez, c'est pas la première fois que nous déposons une motion de censure avec le Rassemblement National en dépose choses une en même temps, mais ça ne vous a pas échappé que à chaque fois la gauche est plus nombreuse à déposer et à signer une motion de censure, et c'est la motion de censure de la gauche qui est examinée. Écoutez, on va voir au moment du vote. Pour autant, oui, il y a une réalité aujourd'hui dans notre pays, c'est que le Parti Socialiste trahit l'engagement premier du Nouveau Front Populaire, dont la première ligne du programme du Nouveau Front Populaire est la rupture avec le macronisme. Comment on peut être élu sur un programme de rupture avec le macronisme et de l'autre côté s'assurer de la survie du macronisme
à chaque fois que la question est posée. Mais encore ce contrat, par exemple, Marine Tondelier, hier, face à François-Xavier Bellamy, que vous aimez beaucoup citer. Donc Marine Tondelier a affirmé que LFI, en tout cas, n'a pas répondu à cette affirmation de François-Xavier Bellamy, comme quoi LFI est un danger pour la démocratie. Et Marine Tondelier de renchérir qu'elle-même n'a pas les mêmes positions que vous, avec des amis comme ça.
Franchement, les bras m'en sont tombés quand j'ai entendu cette déclaration de Marine Tondelier, qui prône à tour de bras l'unité de la gauche et qui quand il s'agit de répondre quand même à François-Xavier Bellamy, qui dit que la France insoumise serait un danger pour la démocratie, alors que elle dit qu'elle a fondé tout son combat contre l'extrême droite, qui est le réel danger pour la démocratie.
Peut-être pense-t-elle aujourd'hui que vous êtes le principal danger.
Non, je pense qu'elle voit qu'elle veut gagner ses galons de notabilité, gagner ses galons de respectabilité dans la sphère médiatique, et qu'au nom de cela, elle est prête à jeter la France insoumise sous le bus. Je pense qu'elle sera bien contente de retrouver les électrices et les électeurs de la France insoumise quand il s'agira de voter pour des candidats écologistes quand on a des candidatures communes. Et moi, je ne jetterai pas nos amis écologistes sous le bus. Donc je pense que Marine Tondelier, qui manifestement est prête à tout pour être candidate à la présidentielle, doit réfléchir à deux fois quand elle répond à ce genre de questions.
Le Premier ministre Manon Aubry qui a mis un gros coup de pression sur une éventuelle dissolution, cette fois-ci affirmant que les législatives pourraient avoir lieu avec les municipales. Que lui répondez-vous ?
Votre lapsus est assez révélateur parce que si le Premier ministre met la pression avec une potentielle dissolution, c'est en réalité pour s'assurer qu'il ne soit pas censuré. Franchement, la ficelle est un peu grosse. Comme par hasard, il fait fuiter dans les médias, comme par hasard au moment où une motion de censure est déposée, que peut-être il peut y avoir une dissolution. Franchement, plus personne n'y croit. Si demain devait y avoir une élection, évidemment qu'on se tient prêt.
Mais qui a peur de cette dissolution ?
En tout cas, pas nous.
Qui,
peut-être les socialistes y ont peur, peut-être les républicains y ont peur, mais nous, on n'a jamais eu peur des urnes, on n'a jamais eu peur des électrices et des électeurs, même si, je ne me fais pas d'illusions, s'il devait y avoir une élection législative demain, je ne suis pas sûre que ça résolverait l'espèce d'impasse dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle, tant le président de la République Emmanuel Macron n'a que faire de la démocratie, que faire du résultat des urnes et des dernières législatives. Et on sait tous que la seule issue à l'impasse politique dans laquelle on est, c'est une nouvelle élection présidentielle et le départ du président de la République.
Alors,
Emmanuel
face
Macron.
À ces querelles qui peuvent sembler quand même picrocolines, en tout cas politiciennes, il y a le désordre du monde. Manon Aubry, sur le plan international, la République islamique d'Iran, le régime totalitaire des Mollahs est-il en train de vaciller sous les coups de boutoir de la population? En tous les cas, il mène une répression. On voit ces images, je le dis à nos auditeurs, d'Europe 1, terrible, sanglante contre le peuple. L'Iran veut se libérer de l'islamisme notamment. Les Iraniennes, plus que jamais découvertes et libres, scandent mort à la République islamique. Que vous inspire un tel courage ?
D'abord, tout mon soutien et tout mon respect. Le peuple iranien se mobilise déjà depuis des années. On se souvient en 2019 du mouvement Femmes, Vie, Liberté et la répression du régime iranien, parce que je ne veux pas donner de légitimité à ce gouvernement, du régime iranien est total, les communications sont coupées, les images que vous diffusez à l'instant sont assez rares en réalité.
Grâce d'ailleurs à Elon Musk et à Starlink.
Oui, enfin malheureusement seuls les plus riches peuvent se connecter.
En tous les cas, c'est grâce à lui que l'on voit cette répression.
Mais il y a un massacre qui est en train de se dérouler et ce massacre est en train de se dérouler à huis clos. Et on a toutes les craintes du monde que le nombre de morts se compte par centaines. La dernière fois qu'il y a eu une révolte en 2019, en l'espace d'une semaine, il y a déjà eu plus de 3000 morts. Donc le bilan humain sera probablement terrible. Et le peuple iranien démontre une nouvelle fois sa force, sa courage.
Quelle est l'origine, selon vous, de cette révolte ?
Parce que le respect.
Une partie des députés LFI, dont Antoine Léaumont, comme d'autres, veulent y voir uniquement une révolte contre la vie chère. Manon Aubry, dans un pays où les femmes sont battues à mort parce qu'elles enlèvent leur voile, dans un pays, vous le savez, où les hommes homosexuels sont pendus dans un régime sous lequel les opposants sont enlevés et torturés. Est-ce que le problème, c'est surtout la vie chère ou c'est la vie charia ?
C'est les deux. À la fin du mois de décembre, ce dernier mouvement de révolte qui s'ajoute au mouvement de révolte précédent est venu des bazars, la révolte en Tunisie est née de raisons économiques et ensuite se propage
d'un jeune qui s'est immolé
tout à fait à cause de la vie chère. Et on a une situation assez parallèle, une révolte qui vient des bazars mais qui devient évidemment une révolte politique contre un régime d'oppression, le régime théocratique des mollahs, et qui a toutes les raisons
vous
du monde.
Vous le dites clairement ce matin. Oui. Beaucoup vous interrogent, hein, parce que par exemple, pour Rima Hassan, je fais d'autres comparaisons, hein, c'est l'Algérie qui est la Mecque des libertés. Pour Mathilde Panot, elle a du mal à condamner Maduro tel un dictateur. Vous, ce matin, vous dites le régime des mollahs est un régime théocratique, barbare et sanglant.
Bien sûr que c'est un régime barbare et sanglant. On a toujours dénoncé le régime iranien. Nous avons parrainé plusieurs personnes dans l'opposition qui étaient menacées de peine de mort parce que c'est la manière dont traite le régime iranien ses opposants. C'est la peine de mort directe. Des centaines de personnes ont été emprisonnées aussi ces derniers jours. On est sans nouvelles d'un certain nombre d'opposants. Donc oui, le régime théocratique des mollahs doit être terminé le plus rapidement possible. Après, j'entends aussi dans la rue, notamment la jeunesse, qui dit « ni chat, ni mollah ».
J'entends aussi dire « ni Gaza, ni Liban, je ne donne ma vie que pour Téhéran ».
Surtout, moi, ce que j'entends, c'est un peuple iranien qui veut décider par lui-même.
Alors, parlons-en.
Et qui ne veut pas se faire imposer, dicter la suite des événements par les États-Unis ou je ne sais quelle autre puissance
étrangère. Parlons-en, on va voir s'il y a une intervention. Mais si la révolution populaire iranienne, Manon Aubry, triomphe des mollahs, ce sera aussi peut-être la fin d'un régime allié au Hamas et donc complice aussi du pogrom du 7 octobre. C'est une pièce maîtresse qui tomberait, mettons-le au conditionnel, dans ce Moyen-Orient si compliqué. C'est aussi un soulagement de votre point de vue.
C'est un soulagement si le régime iranien tombe, évidemment. C'est un régime d'oppression, c'est un régime théocratique qui détruit les droits des femmes.
Donc, pourquoi alors beaucoup d'iraniennes ou de franco-iraniennes ou de françaises d'origine iranienne vous reprochent votre double discours ? Vous reprochent de défendre ici le voile des fillettes et là-bas de ne rien dire quand des femmes sont brûlées ou ont le visage avec de l'acide parce qu'elles retirent leur voile ?
Est-ce qu'en Iran, les femmes ont le choix ou la liberté de porter ou non le voile ?
Vous avez parlé du voile comme un bout de tissu. Est-ce que c'est un bout de tissu en Iran aussi ?
Je repose cette question. Est-ce qu'en Iran, les femmes ont la liberté ou le choix de porter le voile ?
Évidemment, non. Est-ce que c'est un bout de tissu ?
La réponse est non et c'est la raison pour laquelle
je repose la question.
Est-ce
que c'est un bout de tissu, Alain ?
En Iran, c'est un bout de tissu qui opprime les femmes.
C'est un bout de tissu.
Qui opprime les femmes. Qui opprime les femmes. Et donc, en Iran, les femmes qui se battent pour leur liberté, je ne ferai jamais la comparaison avec la situation en France, Sonia Mabrouk.
Et pourtant, c'est le même bout de tissu.
Voulez-vous comparer la situation que vivent aujourd'hui les femmes en Iran avec la situation que vivent les Françaises ?
Manon Aubry, pardonnez-moi, vous dénoncez un patriarcat en France
justement,
et vous dites que c'est un bout de tissu en Iran.
Précisément parce que je défends et je me bats pour les droits des femmes contre le patriarcat. En France, Sonia Mabrouk, les femmes ont-ils le choix de porter le voile ou non ? Êtes-vous obligée de porter le voile ?
Vous êtes dans le cœur de toutes les femmes. Vous savez qu'il y a des femmes dans certains quartiers qui peuvent être obligées de porter Manon Aubry. Vous non.
Vous non.
Moi non. Nous avons la chance de ne pas le porter. Mais vous êtes sûre que toutes les Françaises aujourd'hui,
je dois vous dire,
les fillettes à l'âge de 7 ans, elles ont le choix de le porter ou pas ? Est-ce qu'une fillette à l'âge de 7 ans a le choix ou pas de porter le voile ? Est-ce qu'une fillette à l'âge de 7 ans a le choix ou pas de porter un voile ?
Je réponds à votre question. L'indécence de comparer le régime iranien où des femmes se battent pour leur liberté, la liberté de vivre, la liberté de sortir dévêtues dans la rue. L'indécence de comparer le régime iranien à la situation
française. Ce sont des Iraniennes qui vous le disent, Madame Manon Aubry, Mona Jafarian et d'autres. Elles vous disent, pardonnez-moi, ce n'est pas moi qui vous le dis, taisez-vous. Taisez-vous sur la situation en Iran. Arrêtez de faire des comparaisons improbables.
Les Iraniennes ont besoin d'un soutien international le plus large possible à leur révolution. Et nous serons à leur côté. Nous avons été à leur côté. Nous avons parrainé des opposants. Nous serons demain à leur côté, précisément parce que Sonia Mabrouk, je me bats pour la liberté de toutes les femmes de faire ce qu'elles veulent. Et en Iran, les femmes n'ont pas la liberté de faire ce qu'elles veulent. Et tant qu'elles n'auront pas la liberté de faire ce qu'elles veulent, alors il faudra les défendre. Mais les défendre, et j'insiste, non pas en bombardant le peuple iranien comme veut le faire Donald Trump.
Ce qu'il a dit très ce bien, soir, cette
à
nuit.
Chaque fois que Donald Trump et à chaque fois que les États-Unis veulent bombarder un peuple, ils ne ramènent jamais la démocratie. C'est vrai pour l'Afghanistan, c'est vrai pour l'Irak. Les femmes en Afghanistan et en Irak ne sont pas libres. Et donc, si l'on veut que les femmes iraniennes récupèrent la liberté, il faut se laisser faire cette révolution, être en soutien à cette révolution et non bombarder
le peuple. Pour l'instant, laisser faire la répression, hein, parce qu'il est vrai qu'on attend aussi une déclaration forte de la France. Là, je parle du président de la République.
Et si vous abonnez absent, vous avez raison.
En quoi Manon Aubry, là, pour répondre encore aux accusations qui vous sont faites, c'est intéressant de vous écouter ce matin, vous n'êtes pas les proxys de la République islamique d'Iran. Des figures de votre parti, comme Thomas Porte, qui soutiennent aujourd'hui les manifestants proxy. Iraniens, ne sont-ils pas en réalité les amis et soutiens de proxys, justement, du régime? Je pense notamment au FPLP, à des figures... Je vous pose... Tout va bien se passer. Oui, des figures comme Salah Amouri et d'autres. C'est documenté dans des livres. Le livre de Omar Youssef Suleiman. Le livre également, je vous cite comme ça, il n'y a pas de confusion. Également sur la pieuvre de Téhéran, où très clairement, on vous montre en compagnie de gens qui ont des liens avérés avec le régime que vous dénoncez ce matin.
Écoutez, Sonia Mabrouk, les accusations que vous proférez sont extrêmement graves.
Elles sont dans deux livres. Hein,
elles sont extrêmement
Madame
graves.
Aubry.
Qui sont des livres,
c'est l'occasion que vous répondez.
Qui sont des livres à charge. Je vous mets au défi, Sonia Mabrouk, de trouver le moindre lien.
Eh ben, je viens vous le dire, Salah Amouri a été condamné.
Politique. Salah Amouri est un opposant au régime israélien qui oppresse le peuple palestinien.
Fait partie du bureau politique du FPLP qui est classé terroriste par l'Union européenne et les États-Unis.
Vous le savez comme moi.
Vous êtes d'accord que c'est classé terroriste, c'est le FPLP?
Vous le savez comme moi.
Madame Manon Aubry, oui, non?
La question que je vous pose,
c'est classé terroriste ou pas?
Tous ceux qui se mobilisent pour la liberté du peuple palestinien, dont on parle assez peu, est-ce que vous savez que le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou a interdit à 37 ONG d'intervenir dans la bande de Gaza?
Intéressant, madame.
Un peuple palestinien qui se fait massacrer.
Je vous pose une question sur vos liens, tout simplement. Vous me dites non, alors pourquoi est-il fait partie, de manifestations?
Mes liens sont avec ceux qui se mobilisent contre l'oppression. Contre l'oppression en Iran, contre l'oppression en Israël et en Palestine. Voilà les simples liens qui sont les miens. Et les sous-entendus que vous faites, de liens potentiels.
Ce sont des sous-entendus qui sont dans des livres, qui sont documentés et qui sont faits par notamment Omar Youssef Suleiman et notamment dans le livre Pardonnez-moi la pieuvre de Téhéran, Emmanuel Razavi.
Ils ne sont pas étayés, Sonia Mabrouk.
C'est une question.
Ils sont insupportables, ils ne sont pas étayés et vous le savez comme moi, nous nous battons pour la liberté des peuples partout dans le monde. Ça vaut pour l'Iran, ça vaut pour la Palestine,
ça vaut pour le Venezuela.